Ça devient très compliqué, mais globalement, cette nuit, on a deux pays qui sont officiellement sous cessez-le-feu, qui se sont tirés dessus à coups de drones et de missiles. Oui, alors si vous écoutez bien ma voix, nos voix, vous entendrez cessez-le-feu, drones, missiles et dans la même nuit, dans le même communiqué de presse. Et vous savez ce qu'il a fait le marché ce matin? Devant une escalade militaire au Moyen-Orient, un cinquième du pétrole mondial bloqué et une banque centrale qui ne parle plus de baisser les taux, mais de les monter. Vous savez ce qu'il a fait? Bah ouais, vous avez raison. Le marché, il a refusé de baisser. Je vous dis, moi, je vais finir par tourner bullish. Le Nasdaq est indiqué en baisse de 0,2% ce matin. 0,2%. Je vais vous dire un truc, ce niveau d'indifférence cosmique face au chaos est absolument hallucinant. Alors, j'aimerais bien vous dire que je vais vous expliquer tout ça, mais pour expliquer les choses, il faudrait un semblant de rationalité. Et là, il n'y a pas rationalité, il n'y a plus. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 28 mai 2026. Je suis Thomas Bayet, c'est à peu près la seule certitude du moment, et nous sommes entrés dans le cessez-le-feu le plus violent de l'histoire de l'humanité.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va donc parler d'un marché qui a décidé qu'il était littéralement indestructible. On va parler de pétrole bipolaire, de Trump qui joue à la guerre comme sur une PlayStation avec une touche Same player, shoot again. D'une Fed qui a fait demi-tour à 180 degrés et d'un Détroit minuscule qui tient l'économie mondiale par les... Enfin, qui tient l'économie mondiale. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, reprenons déjà depuis le début. Ça fait trois mois qu'on bosse sur ce scénario absolument délirant. Hier soir, on était tous bullish comme des fous. Convaincus jusqu'au bout des cornes. Le pétrole plongeait de 5%. Wall Street caressait à nouveau des records historiques du bout des doigts. Et tout le monde fantasmait sur un scénario de la couleur de mon t-shirt. Un Iran tout sage qui rouvrirait gentiment le détroit d'Hormuz sous des tonnes de pétales de rose, comme mon t-shirt encore une fois. Le Trump qui marcherait sur l'eau en célébrant une victoire incontestée face aux forces du mal. En gros, la 287e promesse de paix depuis le début du mois. Et puis cette nuit, bam! Les Américains ont balancé encore des missiles sur l'Iran. L'Iran a riposté contre une base américaine, le Koweït a allumé sa défense anti-aérienne et le baril repart à la hausse encore. Alors moi j'ai une question, une vraie question naïve, parce que je suis pas un expert militaire, même si je suis en train de lire Sun Tzu, donc on va dire que je progresse petit à petit, mais quand deux pays sous cessez-le-feu se foutent sur la gueule toute la nuit, est-ce que le cessez-le-feu est encore valable? Non, parce que dans ma tête c'est simple, hein. Soit on se tire dessus, soit on négocie la paix. Les deux en même temps, c'est pas de la diplomatie, c'est de la schizophrénie militaire. Et là, on nous vend des négociations de paix qui avancent bien, pendant que ça tire dans tous les coins et que tout le monde s'insulte sur les réseaux sociaux. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait, l'Iran? Eh bien, l'Iran, il verrouille le détroit d'Hormuz. Ça, on connaît, et c'est encore bloqué. Et tant que c'est bloqué, le brut reste cher. L'essence à la pompe grimpe. Et Donald Trump regarde ses sondages fondre à l'approche des midterms. Et puis attendez, le meilleur arrive, parce que l'Iran, lui, il a une idée derrière la tête. Ils veulent installer un péage. Oui, un péage sur le détroit d'Hormuz. À la mode autoroute du soleil, un vendredi de chassé-croisé du mois d'août. Jusqu'à 2 millions de dollars le ticket de passage pour un pétrolier. Parce que vous savez, il n'y a pas de petit profit, puis il faut reconstruire Téhéran quand même. Même quand on est officiellement classé comme étant le leader de l'axe du mal. Bonjour, bienvenue à Hormuz, ce sera 2 millions, vous payez en cash ou vous payez en otage? Et là, réaction américaine immédiate, le trésor américain, on est bien d'accord, hein, l'espèce de ministère des finances à l'autre bout de la planète, décide de sanctionner l'autorité iranienne du détroit du Golfe, accusée de vouloir monnayer son terrorisme d'État en rançonnant les navires. Alors, j'adore vraiment ce moment parce qu'à l'époque on parlait de la police du monde. Et ben là ça résume tout, hein. Les Américains sont devenus la police du monde au point que leur ministère des Finances colle des amendes à un péage iranien à 11 000 km de Washington. C'est le PV de stationnement géopolitique le plus cher du monde et le moins justifié de tous. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il promet Donald Trump? Eh bien, il promet que personne, jamais, ne contrôlera le détroit d'Hormuz, que ce sont des eaux internationales et que les États-Unis vont, je cite, veiller dessus. Veiller. dessus, avec des frappes toutes les 48 heures. Je sais pas vous, mais ma définition de veiller sur quelque chose, c'est pas exactement de le bombarder deux fois par semaine. Le concept de surveillance a sérieusement évolué depuis la dernière fois que j'ai ouvert un dictionnaire. Bon bah maintenant, on va ramener tout ça dans notre monde à nous. La finance, c'est pas qu'on la comprenne mieux que la stratégie militaire selon Trump, mais au moins, on a des chiffres pour réfléchir un petit peu. Ça nous parle un peu plus. Le pétrole est cher, tout le monde est d'accord. Mais pour nous, pour les marchés, le pétrole cher, c'est pas juste une histoire de plein d'essence qui coûte un bras. Puis après tout, on n'a qu'à acheter une Tesla. C'est de l'inflation injectée directement dans les tuyaux de l'économie. Et l'inflation, c'est le cauchemar récurrent de la Fed. Le truc qui la réveille la nuit en sueur. Enfin, qui réveille surtout Warsh, parce que la Fed elle-même, elle ne dort pas. Résultat, le rendement du 10 ans américain remonte à 4,53%. Le marché est en train de flairer que les prix vont pas se calmer là tout de suite, hein. Et accrochez-vous, parce que voici donc le truc le plus dingue de cette histoire. Plus dingue que les missiles, plus dingue que le péage. On ne parle plus de baisser les taux aujourd'hui, on parle de les monter. Ça devient récurrent dans tous les médias et dans toutes les banques centrales. Tout le monde en parle sans arrêt, il n'y a pas un jour qui passe sans que quelqu'un vienne dire « Moi, je suis prêt à monter les taux ». Au bout d'un moment, ils vont commencer à faire un gros groupe. Aux dernières nouvelles, on en est à 50% de probabilité d'une hausse d'ici la fin de l'année. Il y a 6 mois, tout le monde était à genoux à prier Saint Powell pour qu'il baisse les taux. On suppliait, on voulait de l'argent gratuit. Aujourd'hui, on prie surtout pour que Warsh ne fasse pas l'inverse. Et alors le plus beau dans tout ça, vous avez remarqué, Trump qui ne jurait que par la baisse des taux, qui en parlait dans chacun de ses posts sur Truth Social 47 fois par jour, plus un mot. Silence radio, il a laissé tomber, probablement parce qu'il a d'autres chats à fouetter, genre un des trois à surveiller. Et d'ailleurs, au milieu de tout ça, c'est là qu'arrive le rendez-vous de cette journée du 28 mai. Cet après-midi à 14h30, on aura le PCE. Alors pour ceux qui débarquent dans le monde merveilleux de la finance, le PCE, c'est le thermomètre préféré de la Fed. Sa mesure d'inflation adorée. Et il est attendu à 3,8% sur un an, au plus haut depuis 3 ans. Je rappelle pour mémoire que la cible de la Fed, c'est 2%. Hein. Et là, quand on voit les chiffres qui sont sortis ces derniers temps au niveau de l'inflation, les 2%, c'est à des années-lumière. Et si le chiffre d'aujourd'hui sort, allez, à 4%, Trump a intérêt à sortir un accord de paix miraculeux dans la demi-heure, sinon la probabilité d'une hausse des taux se rapprochera dangereusement des 100%. Bon, maintenant, vous vous asseyez, vous prenez une feuille, un crayon et on fait la liste de ce matin ensemble. On a une escalade militaire qui redémarre. Ça, c'est le point 1. Le point 2, on a le pétrole qui est toujours au-dessus des 90 dollars. Ça reste quand même pas bon marché. Au point 3, on a une inflation qui est menaçante partout dans le monde, conséquence directe du pétrole. Au point 4, on a une Fed qui commence à parler de hausse des taux. Au point 5, on a une BCE qui commence aussi à parler de hausse des taux. Eux, c'est même quasiment une certitude. Au point 6, on a des rendements obligataires qui commencent à remonter parce qu'on sent que ça va pas baisser tout de suite au niveau de l'inflation. Au point 7, on a des valorisations boursières qui ridiculiseraient les vendeurs de tulipes hollandais en 1637. C'est le cocktail parfait pour un carnage, un scénario catastrophe écrit noir sur blanc tellement il est évident. N'importe quel manuel de finance vous dirait ça sent pas super bon et ça pourrait mal se finir. Je dis pas que je suis bériche, je dis juste que je suis factuel. C'est tout, je raconte. Et donc, au milieu de tout ça, le marché, il fait quoi? Bah, ce matin, les futurs sont quasi stables. Le Nasdaq baissote péniblement de 0,2%. C'est tout. C'est tout. Cette nuit, au milieu de la nuit, ça a accéléré un petit peu en baisse de 0,3%. Une demi-heure après, on était de nouveau flat. Non, il faut se rendre à l'évidence. Hein. Ce marché, il veut pas baisser. Il refuse de baisser. S'il ne tombe pas dans ces conditions-là, à mon avis, il tombera plus jamais. Wall Street encaisse les missiles comme un boxeur sonné qui reste debout juste parce qu'il veut pas se laisser tomber. L'Asie, elle au moins ce matin, a gardé un petit peu de dignité, un petit peu de rationalité. Hong Kong baissait 2,3%. La Corée reculait de 1,2%. Et tu m'étonnes, ils ont pris 10% en 3 jours. Le Japon perd 1,3%. Et les semi-conducteurs marquent une pause après leur ascension parabolique. Eux, ils ont l'air d'avoir compris qu'il se passait quelque chose. Enfin, c'est pas sûr. S'ils avaient compris, ils baisseraient d'ailleurs. Et puis alors, le monde ne s'arrête pas de tourner parce que pendant que le golf est en train de flamber, encore une fois, le grand show des résultats trimestriels continue. Et alors là, c'est un festival de contradictions. Et on a eu Snowflake hier soir, plus 37% after hour, 37% en une soirée. Le narratif s'est inversé d'un coup. Hein. Avant, on nous disait que l'IA allait tuer le software et que voilà que tout d'un coup, Snowflake nous balance un trimestre record, relève ses prévisions et signe un partenariat à 6 milliards avec Amazon. L'IA tue le software le lundi et le sauve le mercredi. Si on commence à faire ça avec tous les softwares qui sont faits massacrer, ça risque de faire bizarre. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la cohérence zéro, la conviction est maximale et la recette est méga simple. Hyper simple. Écoutez-moi bien. Vous placez bien le mot IA dans votre communiqué de presse Et bam, carton plein. C'est magique, ça marche à tous les coups. À l'opposé, on a Zscaler qui s'est fait massacrer, moins 32%, pire performance du Nasdaq sur des prévisions dégueulasses. Salesforce qui reculait encore un peu après ses résultats, terrorisé à l'idée que les agents IA fassent exploser leur modèle de tarification, au point d'ailleurs que Palantir a carrément viré son propre logiciel pour en coder en maison. Quand vos propres clients se mettent à fabriquer le produit qu'ils vous achetaient avant, c'est rarement une bonne nouvelle. Et puis, alors, mon préféré hier soir, c'était Boston Scientific, moins 12%. Pourquoi ? Bien parce que le PDG a osé murmurer à l'oreille des marchés que l'année serait un peu plus difficile que prévu. Un peu plus difficile. Le marché ne pardonne pas la franchise. Il préfère nettement le mensonge. Et si possible, un mensonge bien emballé avec de l'IA partout autour pour faire joli. Alors voilà où on en est ce matin. On a un pétrole qui monte et qui descend au rythme des humeurs et des rumeurs de Trump et des drones iraniens. On a une Fed coincée entre une inflation qui galope et une croissance qui vacille. Ce qu'ils appellent joliment le risque symétrique, ce qui en français veut dire on est dans le pâté jusqu'au cou. On a un dollar qui joue les refuges pour l'instant, un or qui boude, un bitcoin qui se fait démonter, au milieu de tout ce cirque des bourses mondiales qui ne baisseront plus jamais. Le marché ce matin, c'est un type complètement bourré à 4h du matin qui tient debout par pure force d'habitude. Il vous regarde droit dans les yeux puis il vous dit « Non, non, mais ça va, je peux conduire, donne-moi les clés ». Et puis alors cet après-midi, on aura le PCE et on verra bien si ça change quelque chose. Je vous avoue que j'en doute, mais on va faire comme si nous vivions dans un monde rationnel, ce qui n'est pas le cas, je vous le rassure. Si l'analyse de cette vidéo vous a plu, bah bien sûr, vous abonnez, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous activez la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Ça m'aide énormément et puis surtout, ça excite l'algo de YouTube. Et nous, on se retrouve demain matin, un peu plus tôt, si mon réveil ne me lâche pas comme il l'a fait ce matin. Très belle journée à tous, profitez bien. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.